18h-20h,
votre grand journal du soir,
Sébastien Krebs.
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, ravi de vous accueillir pour votre grand journal du soir jusqu'à 20h en cette soirée de bonne nouvelle. C'est pas le cas tous les jours, hein, surtout depuis quelques mois, mais ça y est, l'étau va vraiment se desserrer, lever de la limite des 100 km, la carte de France quasiment tout en vert, la carte de France de l'épidémie bien sûr, les restaurants vont rouvrir partout. Même à Paris, pour les terrasses, c'est un peu la surprise du jour. On va vous détailler tout ce qui change la semaine prochaine avec Isabelle Millet. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous.
Votre journal dans quelques secondes et juste après à 18h20, le regard d'un expert, le professeur François Bricker, infectiologue, membre de l'Académie de médecine. Les grandes voix à 18h30 bien sûr et à 19h. Les lycées seront-ils prêts? Ils vont pouvoir rouvrir dès mardi presque partout. Le bac français, lui, l'oral est annulé. Ce sera du contrôle continu finalement. Débat ce soir entre proviseurs et parents d'élèves. Enfin, à partir de 19h30, on va prendre des nouvelles des sportifs. Les sportifs de haut niveau, comment reprendre l'entraînement après des mois d'arrêt, des compétitions annulées? Avec notamment Richard Gasquet qui sera avec nous tout à l'heure. C'est votre grand journal du soir qui démarre. Soyez les bienvenus. C'est parti jusqu'à 20h sur Europe 1.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
Les résultats sont bons sur le plan sanitaire. Même si nous restons prudents, même si nous ne pouvons pas courir le risque de la désinvolture, les nouvelles sont plutôt bonnes.
Souffler après l'épreuve, reprendre une vie presque normale. Notre vie s'apprête donc à changer à partir du 2 juin. Lancement de la phase 2 du déconfinement avec beaucoup, beaucoup d'annonces ce soir. Où, quand, pour qui et pourquoi, on va bien sûr détailler toutes ces annonces ensemble.
Avec notamment la fin de la limitation à 100 km pour les déplacements et une carte de France où la couleur rouge a disparu.
Oui, en métropole, il n'y a plus que du vert, à l'exception de l'Île-de-France qui passe au orange et qui aura donc un peu moins de liberté que les autres.
Couleur verte, synonyme notamment de réouverture pour tous les cafés et restaurants, et il était temps.
Eh bien, on est très contents, ça faisait un petit moment qu'on attendait cette nouvelle. Ça vaut le 14 juillet, c'est la libération pour nous.
Vous avez reconnu l'accent marseillais en Ile-de-France, classé orange donc. Les restaurants et les cafés pourront aussi rouvrir, mais attention, uniquement les terrasses.
Et on demandera au docteur Jimmy Mohamed qui est avec nous ce qu'il pense de cette liberté retrouvée. Est-ce que ça veut dire qu'il faut désormais exclure complètement une seconde vague?
Et puis on s'intéressera aussi à nos enfants. Écoles et collèges peuvent rouvrir dès mardi, mais pour les lycées, ce sera uniquement en zone verte. Dans ce journal, on reviendra également sur la hausse très spectaculaire du chômage en avril et sur la disparition d'une figure de la droite, le député Claude Goesgen. Catherine Ney viendra nous en parler. La Bourse de Paris a terminé ce soir en forte hausse de 1,76%.
Les nouvelles sont bonnes. Est-ce qu'elles sont bonnes du côté de la météo, Anissa? Bonsoir.
Bonsoir. Eh bien, malheureusement, je vais gâcher l'ambiance puisque demain, c'est le retour des orages, un temps très agité, notamment sur le sud-est, partout ailleurs. Poursuite de ce temps estival, je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Avec Sébastien Krebs et Isabelle Millet.
Et nous voilà donc fixés. Hein. Édouard Philippe vient de donner tous les détails de la vie d'après, cette phase 2 du déconfinement qui débutera le 2 juin et qui évidemment est très attendu par les Français. Alors il a été dit beaucoup de choses dans cette intervention. On va essayer de vous résumer tout ça le mieux possible évidemment. Le Premier ministre qui en préambule a énuméré tout ce qui allait changer en bien à partir de mardi prochain.
Au cours de cette phase 2, la liberté enfin va redevenir la règle et l'interdiction constituera l'exception. Nous avons ainsi notamment décidé l'accélération de la réouverture des écoles et collèges dans toutes les zones et des lycées dans les départements verts, la réouverture des cafés, des restaurants, des bars, le retour progressif de la vie culturelle et sportive avec des contraintes spécifiques dans les zones de vigilance orange, la réouverture des parcs et jardins en zone orange. Mais cette liberté retrouvée implique des contraintes qui sont en quelque sorte des contreparties. La limitation des regroupements à 10 personnes dans l'espace public est maintenue. Le principe du recours au télétravail doit toujours être privilégié, on le comprend bien. Le respect des gestes barrières, surtout, doit rester très rigoureux. Et le port du masque est maintenant largement recommandé par les autorités sanitaires.
Édouard Philippe avec Jean-Rémy Baudot tout à l'heure à l'Élysée. Alors l'une des annonces fortes aujourd'hui du Premier ministre, c'est l'évolution de la fameuse carte de France. Avec Ève Roger, un aspect important, c'est que le rouge a complètement disparu.
Et oui, ça doit être le soulagement dans le Grand Est, les Hauts-de-France et la Bourgogne-Franche-Comté. Ces trois régions qui ont viré cet après-midi du rouge au vert. Il n'en reste donc qu'une seule, vous l'avez dit, l'Île-de-France, qui s'arrête en chemin et se retrouve aujourd'hui non pas en vert mais en orange. Et cette couleur orange concerne aussi la Guyane et Mayotte. Alors orange, le Premier ministre l'a dit, ça veut dire un déconfinement plus prudent qu'ailleurs. Vous l'avez entendu, les parcs et jardins rouvrent à certaines conditions. Et puis pour les cafés et restaurants, en zone orange, on ne pourra s'installer pour l'instant qu'en terrasse. Alors pourquoi l'Île-de-France? Parce que le virus y circule un peu plus qu'ailleurs, a précisé Olivier Véran, le ministre de la Santé. Un peu plus, et pas forcément à cause de la présence de clusters, le virus circule un peu partout en Île-de-France. Et puis deuxième critère qui maintient la région sous surveillance, la tension dans les hôpitaux. Et c'est vrai, dans la région capitale, il y a toujours 7000 patients hospitalisés, dont plus de 600 en réanimation.
Ève Roger, merci, chef du service Société d'Europe 1.
Avec nous comme tous les soirs maintenant, le docteur Jimmy Mohamed. Bonsoir docteur.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous.
Alors la disparition du rouge sur cette carte de France, est-ce que ça veut dire que ça y est, on est sûr qu'il n'y aura pas de deuxième vague? Est-ce que ça ne va pas un peu trop vite tout ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous paraît raisonnable?
On a suffisamment de recul pour dire que les indicateurs sont bons, ils sont factuels. Le premier, c'est le taux d'incidence, le nombre de malades par semaine et par habitant. Le nombre de tests positifs, qui est aussi très faible, il est de 2% alors qu'il était de 20% au moment de l'épidémie. Ce fameux R0, le nombre de personnes malades qu'on va contaminer, il est en dessous de 1. Et puis la capacité des réanimations qui est franchement en nette amélioration. Ce qui veut donc dire que le virus va un peu circuler, on aura des clusters, mais tant qu'on les identifie, qu'on les teste, qu'on les isole, on est plutôt tranquille et puis on a un peu de liberté. La fermeture des plages était un peu incompréhensible, celle des parcs, on ne va pas refaire le match, mais au moins on peut être un peu serein, surtout que la vie doit reprendre, le confinement a marché, mais il ne faudrait pas que les conséquences du confinement prennent le dessus sur des effets délétères, des effets socio-économiques. Donc on va peut-être pouvoir un peu souffler pour cet été, jusqu'à l'hiver prochain peut-être, espérons-le.
Merci docteur Jimmy Mohamed, vous restez avec nous, on va en reparler longuement pendant les grandes voies dès 18h30 et puis juste avant, dès 18h20, on verra ce qu'en pense mon invité, l'infectiologue François Bricaire.
Alors il y a beaucoup de monde qui retrouve le sourire ce soir, en particulier les restaurateurs qui étaient bien sûr suspendus aux paroles du Premier ministre.
Et oui, en zone verte, on le disait, ça y est, ils vont pouvoir rouvrir dès mardi, pareil pour les cafés. Et c'est évidemment un soulagement dans toutes ces régions concernées, notamment chez vous à Marseille, Nathalie Chevance.
Oui, et sur la plage du Prado, certains restaurateurs se préparent déjà. Coup de peinture sur les devantures, tables décapées, prépositionnées. Personnel qui commence à prendre ses marques. Cette fois, la date est fixée pour le plus grand bonheur de Fred, de la brasserie L'Equinox, avec son immense terrasse face à la mer.
Eh bien, on est très contents. Ça faisait un petit moment qu'on attendait cette nouvelle. Ça vaut le 14 juillet. C'est la libération pour nous. Personnel en pleine forme, nous aussi. On s'est donné les moyens avec des bornes de gel hydroalcoolique, avec tous les process mis en place, des sens de circulation. On a la chance d'avoir de la place. On va réagencer, on va aérer. En fait, on voudrait instaurer un climat de confiance avec le client. Nous, ça va le faire.
Avec des Marseillais un peu lassés par les apéros dînatoires sur les rochers qui, pour la plupart, n'attendent qu'une chose, se réinstaller en terrasse, cri du cœur.
Oui ! C'est nécessaire pour eux et pour nous. C'est vrai que de se poser en terrasse plutôt que de venir pique-niquer, après ça a un charme différent. Mais c'est vrai que c'est échanger, c'est le pur moment de convivialité, le restaurant. J'ai hâte.
On voit que les tables sont commencé à se positionner. Oui, oui, oui. Il était temps.
Avec aussi une autre étape très importante ici, l'ouverture des plages à Marseille d'ici quelques jours pour le véritable coup d'envoi de la saison estivale.
Nathalie Chevance à Marseille pour Europe 1. Parmi les autres annonces importantes du jour, on entendait tout à l'heure la reprise des cours.
Bonsoir Virginie Salmen.
Bonsoir.
Vous êtes la spécialiste éducation d'Europe 1. Les écoliers, les collégiens et les lycéens, Virginie, ne seront pas tous logés à la même enseigne.
Effectivement. Alors l'annonce très attendue, c'était celle de l'oral du bac de français. Il est annulé. L'épreuve sera validée par le contrôle continu pour les 526 000 élèves de classe de première. Mais les lycées vont rouvrir, y compris en zone orange comme l'Île-de-France. Alors pas pour reprendre les cours, mais pour assurer au moins un entretien pédagogique individuel avant la fin de l'année. Les collèges des zones orange vont rouvrir à partir de la semaine prochaine pour un accueil progressif des élèves de 6e et 5e. Et puis dans les zones vertes, les élèves de 4e et 3e vont pouvoir retourner en classe eux aussi au moins une partie de la semaine par un système de roulement comme en primaire. Et puis dans les écoles maternelles et élémentaires, il n'y aura pas d'allègement du protocole sanitaire, mais elles doivent assurer un accueil systématique des élèves, au moins à temps partiel. Le ministre n'explique pas comment. Et toutes les écoles doivent rouvrir dès mardi prochain. Il restait environ 15% d'écoles fermées en France.
Merci. Merci beaucoup Virginie Salmen, spécialiste éducation d'Europe 1. Je vous donne plusieurs autres annonces importantes. Édouard Philippe est encore en train de parler, donc il y en aura peut-être d'autres. La reprise progressive de la vie culturelle et sportive, les musées et les monuments qui vont pouvoir rouvrir, tout comme les théâtres et les salles de spectacle à partir aussi du 2 juin et avec pas mal de conditions. Les parcs de loisirs aussi, là encore dans certaines conditions, mais les boîtes de nuit resteront fermées. Les cinémas ouvriront, écoutez bien, à partir du 22 juin. Les villages vacances et les campings pourront rouvrir dès le 2 juin uniquement en zone verte. Ce sera le 22 juin en zone orange. Les colonies de vacances pourront avoir lieu à compter du 22 juin. Réouverture, on l'entendait tout à l'heure, hein, des parcs et jardins en zone orange, y compris à Paris, et ce, dès ce week-end. Les piscines, les gymnases, les salles de sport pourront rouvrir le 2 juin en zone verte. Quant à la réouverture des frontières à l'extérieur de l'espace Schengen, la décision sera prise collectivement avec tous les pays de l'Europe à partir du 15 juin. Mais à l'intérieur de l'Europe, en revanche, si la situation le permet d'ici là, bien sûr, nous devrions pouvoir voyager dès le 15 juin partout en Europe sans quarantaine imposée. Toutes ces mesures seront bien sûr réévaluées fin juin.
Voilà, donc on suit en temps réel tout ce qui tombe et on vous communique toutes ces annonces. On va en reparler très largement, bien sûr, avec les grandes voix. Et on reviendra sur ce qu'on disait des collèges et des lycées après 19h, le débat entre proviseurs et parents d'élèves, notamment sur l'épreuve de l'oral du bac français.
Europe 1. Votre grand journal du soir, c'est avec Isabelle Millet et Sébastien Krebs.
À suivre dans votre journal de 18h, le chômage à son plus haut niveau depuis 1996, en fait depuis le début des statistiques.
Et puis la disparition d'une figure de la vie politique parisienne, Claude Goesgen, il avait 75 ans.
Europe 1. Interruption spéciale.
Avec l'assurance auto-MMA, les kilomètres non roulés sont des kilomètres remboursés. Zéro tracas.
Et zéro blabla, envoyez la pub.
MMA. Conditions sur MMA.fr.
L'affaire Clara Miller, c'est le nouveau thriller d'Olivier Ball. Des lecteurs conquis, une presse enthousiaste. Pour le Parisien, une fois commencé, impossible de le lâcher. Pour la Dépêche du Midi, un roman qui fera date. L'affaire Clara Miller d'Olivier Ball. Un livre XO. XO, lire pour le plaisir.
Et voilà, c'est la fin du confinement. Et chez Atoll, on sait que vous vous êtes essayé à différents métiers, avec plus ou moins de réussite. Prof de maths et d'histoire, chef à domicile, coach sportif et même coiffeur. Oh, ça va, ça repousse. Mais il y a un métier que vous n'avez pas pu pratiquer, c'est opticien. Alors chez Atoll, nous vous offrons un test de vue pour refaire vos lunettes rapidement, avec des verres Essilor. Atoll, mon opticien. That's all. Ce test n'est pas un examen médical, voire condition sur site internet.
Avec Renault Pro Plus, parlons des professionnels. Anne, par exemple, est agent immobilier. Elle fait toutes ses visites en voiture et elle ne paye ni l'essence ni le parking.
Bah, ça, c'est parce que je roule en électrique.
J'y viens. C'est depuis qu'Anne est passée à l'électrique avec Renault Pro Plus qu'elle fait de réelles économies sur ses frais de déplacement et maîtrise mieux son budget.
Et c'est ça qui compte.
Avec Renault Pro Plus, changez d'énergie sans rien changer à votre business. Avantages économiques disponibles sur Renault.fr.
18h11 sur Europe 1, la suite du journal avec Isabelle Millet et Sébastien Krebs.
La perspective d'une reprise de l'activité économique plus que jamais nécessaire. On regarde les chiffres du chômage qui ont été donnés pour le mois d'avril.
Oui, Édouard Philippe l'a d'ailleurs évoqué tout à l'heure dans son discours. Sans surprise, ces chiffres sont très mauvais. Alors c'est vrai qu'on pouvait s'y attendre. Bonsoir Emmanuel Duteil.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous.
C'est même plus que très mauvais. C'est sans précédent, une hausse de 22% pour la catégorie A, c'est-à-dire les chômeurs sans aucun emploi.
Oui, écoutez ce chiffre, 843 000 demandeurs d'emploi en plus sur un mois. 4 575 500 personnes actuellement sans emploi en France. C'est tout simplement du jamais vu depuis la création de la série statistique en 1996. Toutes les tranches d'âge sont concernées par cette forte hausse, mais ce sont les moins de 25 ans qui sont les plus touchés. Cette augmentation est portée par ceux qui cherchent des emplois dans le secteur du tourisme, du bâtiment ou encore du spectacle. Et si ça augmente autant, c'est que beaucoup de demandeurs d'emploi qui arrivent à avoir traditionnellement quand même avoir une petite activité réduite pendant le mois où, qui se passe, et bien là, ils n'ont rien pu trouver. Ces chômeurs expliquent trois quarts de la hausse de cette catégorie A. Un quart, malgré tout, sont de nouveaux inscrits. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça montre très clairement que le marché de l'emploi est complètement bouché pour ceux qui sont au chômage et que certains commencent à perdre leur poste et s'inscrivent donc à Pôle emploi.
Merci beaucoup Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1.
Le tribunal des prud'hommes d'Amiens a rendu sa décision sur la fermeture de l'usine Goodyear en 2014 et sur le licenciement de plus de 830 salariés.
Salariés qui devront être indemnisés. La justice estime en effet que ce licenciement était sans motif économique valide. Goodyear a encore toutefois la possibilité de faire appel. À Lyon, le maire Gérard Collomb s'efface derrière le candidat LR. Il ne sera pas candidat à la présidence de la métropole. C'est une énorme surprise hein, dans cette campagne. Gérard Collomb, arrivé troisième au premier tour, annonce une alliance avec la droite. Il choisit de s'effacer derrière le candidat Les Républicains, François-Noël Buffet. Et puis, on vous le disait dans les titres, une figure de la droite s'est éteinte aujourd'hui. Claude Goasguen, député Les Républicains de Paris, ancien maire du 16e arrondissement. Il a succombé à un arrêt cardiaque après avoir contracté, il y a plusieurs semaines, le Covid-19. Il avait 75 ans.
Et Catherine Ney est avec nous. Bonsoir Catherine.
Bonsoir Sébastien.
Grande voix d'Europe 1, vous l'avez côtoyé, hein, Claude Goasguen. Qu'est-ce qui disparaît avec lui dans la vie politique française ?
Mais c'est une race de parlementaires qui n'existera plus après lui, parce que d'abord c'est une force de la nature, un caractère. Vous savez, quand il y avait du brouhaha dans l'hémicycle au moment des questions d'actualité, il fallait toujours aller regarder de son côté. C'était lui qui sortait une formule, quelquefois un peu facile, alors qu'il était un universitaire respecté, docteur en droit, juriste pointu, mais il avait des idées tranchées. Surtout, c'était un caractère, vous voyez, partisan d'une droite musclée, décomplexée. Donc ça veut dire qu'il était heureux dans l'ajout de parlementaires, mais plus heureux dans l'opposition que dans l'approbation gouvernementale.
Et il aimait la provoque.
Oui, parce que tout était passionnel chez lui, vous voyez, jeune, il était président de la Corpo de droit Panthéon Assas, vous voyez, et très proche d'Occident, de Madeleine, Longuet, tout ça. Donc c'était quand même, vous voyez, un tempérament de droite, mais surtout toujours prêt à la castagne, même physique, avec des proches, des opposants. Et quand ça allait bien, il aimait ouvrir des conflits, même avec les proches, pour le plaisir de vitupérer, de râler, d'estomir.
Et c'était un très proche de Jacques Chirac, qu'il avait nommé au gouvernement en 95, mais il s'est fait virer assez vite avec les jupettes, quelques mois plus tard.
Oui, ça c'était Alain Juppé qui, voulant se débarrasser de femmes parce qu'il en avait trop nommé, il fallait bien deux hommes qui pour faire bon poids, il y a eu à la fois François Baroin qui était porte-parole du gouvernement et qui faisait très bien son boulot, et lui-même qui était ministre de la réforme de l'État et qui avait tout à fait les capacités pour agir et qui tous les deux ont été virés et d'ailleurs n'ont jamais pardonné à Alain Juppé, oui, ça c'est vrai.
Merci Catherine Ney et on vous retrouve très vite hein, la semaine prochaine avec les grandes voix, avec aussi Gérard Carrérou et Charles Villeneuve.
Et puis Sébastien, une dernière minute, on apprend à l'instant, à la seconde, la disparition de Guy Bedos. C'est son fils hein, qui l'annonce lui-même sur Twitter. Son fils qui écrit ce très beau texte. Il était beau, il était drôle, il était courageux. Je suis fière de l'avoir eu comme père et je vous propose qu'on réécoute tout de suite un petit extrait de Guy Bedos. Vous savez qu'il tirait à boulet rouge, notamment sur les politiques, surtout de droite, et on a envie ce soir, bien sûr, de réentendre sa voix.
Putain de gosse ! À l'enfoiré de monde ! Il a chialé toute la nuit, ce petit con. Toute la nuit, je me le suis tapé. De 11h15 hier soir à 6h27 ce matin, où il a fini par plonger, juste au moment de le réveiller pour la première tétée. Ça, c'est pas moi, ça. J'allais pas, encore heureux. On m'a exempté. Putain de gosse ! J'avais tout prévu. Je m'étais shoot comme un malade à la camomille, les boules qui s'enfonçaient jusqu'au cervelet, 50 fois dans la nuit, waouh, les boules, spling, putain de gosse. Ce type-là, crois-moi, il a de la chance d'être mon fils et d'avoir 8 mois et demi.
Voilà, avec Guy Bedos sur scène, sa voix, son ton. Guy Bedos, on se souvient de lui sur scène, on se souvient de lui aussi au cinéma, sous la direction d'Yves Robert, Un éléphant, ça trompe énormément. Nous irons tous au paradis et d'autres encore. On va revenir sur le parcours de Guy Bedos, dont on apprend à l'instant la mort annoncée par son fils sur les réseaux sociaux. On va y revenir à 18h30. Portrait complet et les archives, bien sûr, d'Europe 1. C'était le journal d'Isabelle Millet. On passe à la météo avec vous, Anissa.
Oui, avec un temps qui devient beaucoup plus instable dans le sud demain, au bord de la Méditerranée, avec sur les Alpes et la Corse des averses dès demain matin. Ces averses qui vont s'étendre sur la Côte d'Azur et la région Rhône-Alpes dans l'après-midi. Nous aurons également sur les Cévennes et les Pyrénées des nuages de plus en plus nombreux, avec des coups de tonnerre dans l'après-midi partout ailleurs. La journée reste estivale et très ensoleillée. Les températures, elles sont stationnaires demain matin, 8 à 12 au nord, 10 à 16 partout ailleurs. Et puis dans l'après-midi, nous aurons 18 degrés à Cherbourg, 23 au Havre, 24 à Lille, 25 à Clermont-Ferrand, 26 à Paris, 30 à Brest et à Bordeaux et 31 degrés à Mimizan.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir, Sébastien Krebs, avec votre invité dans un instant.
Le déconfinement qui se poursuit et qui s'accélère, même une carte presque entièrement verte, presque peu de tout, un tout petit peu d'orange en Ile-de-France, et c'est presque le retour à une vie normale. Est-ce qu'on va trop vite? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'on peut se le permettre? Mes questions au professeur François Bricaire dans quelques secondes. À tout de suite sur Europe 1.
votre grand journal du soir sur Europe 1 avec vous Sébastien Krebs. Et vous recevez ce soir le professeur François Bricker. Il est infectiologue et membre de l'Académie de médecine.
Bonsoir François Bricker.
Bonsoir monsieur.
Merci d'être en ligne en direct avec nous pour commenter les différentes annonces du jour et cette carte de France de l'épidémie qui est donc intégralement en vert à l'exception de l'Île-de-France, de Mayotte et de la Guyane, mais qui sont orange, donc il n'y a plus de rouge sur cette carte. Le Premier ministre a dit tout à l'heure c'est même mieux que ce que nous espérions au début du déconfinement. François Bricker, est-ce que ça y est, on peut vraiment se dire ce soir que le risque d'une deuxième vague est derrière nous, est écarté?
Écoutez, il faut être toujours très prudent en matière de prévision épidémiologique. Je suis le premier à le dire, mais je fais partie de ceux qui pensent qu'effectivement, on est en situation de régression complète du phénomène épidémique, que le risque d'une deuxième vague est extrêmement, extrêmement réduit, pour ne pas dire que nul. On voit très bien que l'analyse de la situation déjà depuis quelque temps, depuis aux environs du 10 mai, montre que la circulation du virus est en train de s'arrêter et qu'à partir du moment où il y a une réduction très significative de cette circulation du virus, on peut s'autoriser à reprendre des activités. Et je pense que les décisions décidées par le Premier ministre sont tout à fait dans ce sens-là.
Concrètement, aujourd'hui, il y a quasiment plus de cas qui arrivent dans les hôpitaux.
Bah écoutez, la réduction est extrêmement importante. Encore une fois, il faut surveiller, mais de toutes les sources que l'on peut avoir, aussi bien à l'hôpital que dans les cabinets médicaux en ville, on voit bien que le phénomène épidémique régresse complètement ou presque.
Avec donc des bémols sur deux départements d'outre-mer, la Guyane et Mayotte, et sur la région Île-de-France. Vigilance particulière sur le Val-d'Oise qui semble être le département le plus rouge, en tout cas le plus orange foncé, puisque l'Île-de-France est orange. Pourquoi c'est différent en Île-de-France? Qu'est-ce qui est différent?
Bah écoutez, la concentration urbaine, hein, ça fait déjà un petit bout de temps que l'Île-de-France est pointée, si je puis dire, comme étant une zone particulièrement à transmission élevée. Ce qui est tout à fait normal, c'est la densité de population. Vous savez que dans le phénomène épidémique, beaucoup de facteurs jouent, dont la densité, mais aussi des facteurs favorables comme l'ensoleillement, l'importance de la luminosité, etc. Et donc tout ceci aboutit à voir une majorité de départements devenir vert quand ils ne l'étaient pas, et puis à ne garder encore que l'Île-de-France qui n'est plus rouge.
Mais justement, vous parliez de l'ensoleillement et de la température. Il a fait extrêmement beau un peu partout en France, globalement, depuis plusieurs semaines maintenant. Ça a joué pour nous. Vous attribuez à la saison une partie au moins de la réponse et du recul de l'épidémie?
Oui, ça peut jouer. Alors, ça n'est que sans doute un facteur. Vous savez, il faut être là encore très, très modeste. On ne connaît pas tous les éléments qui président à l'évolution d'un phénomène épidémique, mais globalement, cette courbe en cloche qu'on a l'habitude de décrire montrait bien que cette épidémie répondait aux règles habituelles avec une phase descendante dans laquelle on s'était introduit depuis le plateau, le fameux plateau. Et donc, je dirais aux alentours du 10 mai, quasiment un retour à la base. Donc, autrement dit, une circulation du virus extrêmement diminuée.
Vous dites une évolution naturelle comme n'importe quelle épidémie. D'autres médecins l'ont dit, même déjà depuis un petit moment, que l'épidémie reculait et qu'elle reculerait quoi qu'il arrive. Est-ce que finalement, on n'a pas maintenu toutes ces restrictions à nos déplacements, à l'activité économique? On voit l'impact aujourd'hui. Est-ce qu'on n'a pas pris trop de précautions jusqu'à présent?
Écoutez, c'est toujours facile après de rediscuter, de contester. Non, le phénomène épidémique naturel et son évolution naturelle existent. Les mesures qu'on peut prendre, qui peuvent se justifier sur un certain nombre d'arguments, peuvent modifier un peu le profil évolutif de ce phénomène naturel, peut en atténuer en tout cas l'intensité et réduire le risque, c'est ça qu'on voulait, de voir les services de soins intensifs être débordés. Donc tout ceci justifiait des actions. Eh bien, elles doivent maintenant pouvoir être levées pour un retour le plus rapidement possible à la normale. Et je vois ce qui est décidé, aussi bien pour les activités scolaires, les restaurants et même les salles de spectacle, ce qui est très bien.
Qui, donc courant juin, oui, c'est ce qu'on a entendu tout à l'heure. La limite des 100 km va être levée et elle va être levée pour tout le monde. Ça veut dire que les habitants des zones qui sont encore classées orange, particulièrement l'Île-de-France, vont pouvoir voyager ailleurs en France et donc dans les zones vertes. Et ça, dès la semaine prochaine, ça peut peut-être inquiéter certains habitants qui habitent dans des zones dites vertes et qui ont été relativement épargnées. Est-ce qu'il y a un risque, en clair, que les Parisiens ramènent le virus ailleurs ?
Non, écoutez, je crois qu'encore une fois, il faut bien expliquer aux gens que c'est la circulation, c'est l'importance de la circulation du virus qui conditionne le risque évolutif du phénomène épidémique. Donc il ne faut peut-être pas entretenir l'inquiétude et l'anxiété en ce domaine. À partir du moment où les décisions sont prises sur des arguments qu'on vient d'évoquer de réduction de la circulation du virus, et le Premier ministre, me semble-t-il, l'a souligné lui-même avec des résultats positifs, et bien plus rapidement positifs qu'on pouvait le penser, eh bien, il n'y a pas d'inquiétude majeure à avoir, et je pense que là aussi c'est sage de ne plus être sur ce rayon limitatif de 100 km.
Est-ce que, selon vous, il y a un risque que le virus revienne à l'automne ? On parlait de la saisonnalité tout à l'heure.
Alors oui, là encore, si vous voulez, on peut évoquer des tas de choses. On peut évoquer qu'ils reviennent en automne, on peut évoquer qu'ils reviennent l'année prochaine. Je crois que, très honnêtement, il n'y a pas les moyens scientifiques pour répondre positivement à ces questions. C'est loin d'être certain. C'est une possibilité qu'on ne peut pas non plus exclure.
Ça veut dire que les mesures de distanciation qu'on continue d'appliquer, elles vont durer ? On va devoir les garder même au-delà de l'été ?
Écoutez, je crois qu'il est sage de maintenir, pendant qu'on élargit ce déconfinement de façon significative, il est bon qu'on respecte encore quelques mesures de précaution, de mesures barrières, ça n'est pas mauvais, des règles d'hygiène, de façon à réduire au maximum le risque éventuel d'une reprise.
Garder des mesures de précaution. Merci beaucoup François Bricaire de nous avoir répondu ce soir, infectiologue, et je rappelle que vous êtes membre de l'Académie de médecine. Merci à vous, bonne soirée.
Europe 1. Votre grand journal du soir se poursuit avec vous, Sébastien Krebs.
Le rappel des grands titres et des grandes informations de cette soirée dans un instant avec Isabelle Millet. Et puis les grandes voix s'installent. On va revenir sur toutes ces annonces et on reviendra aussi, bien sûr, sur la disparition du comédien et humoriste Guy Bedos, qui est décédé à l'âge de 85 ans. C'est son fils qui l'annonce ce soir sur les réseaux sociaux. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
8h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Sébastien Krebs.
C'est le rappel des grands titres de l'actualité ce soir, Isabelle Millet.
Et vous savez qu'on l'a appris il y a quelques minutes en direct tout à l'heure, la disparition de l'humoriste et comédien Guy Bedos à 85 ans. C'est son fils qui annonce la nouvelle sur les réseaux sociaux. Diane Chénouda, Guy Bedos, c'est une figure populaire, on peut dire qu'il faisait vraiment partie de la vie des Français.
Ah ben oui, c'était un de nos premiers grands humoristes, hein, avant qu'il ne soit aussi nombreux, à l'humour acerbe, percutant, très politique. Il ne cachait pas son engagement à gauche et tirait à boulets rouges sur les politiques, surtout ceux de droite. Ses piques, ses répliques faisaient mouche, faisaient le buzz, aussi grand qu'un Coluche, en tonton flingueur qui n'épargne personne, surtout pas les racistes, les extrémistes de droite, avec dans le collimateur les Le Pen. Son engagement à gauche, eh bien, il l'assumait, il le revendiquait haut et fort. C'était un peu sa marque de fabrique. Je suis né ainsi, s'est-il un jour confié dans l'Express. J'ai grandi auprès d'un couple dont l'homme, mon beau-père, était d'extrême droite. Quant à ma mère en 81, elle se promenait encore avec une photo du maréchal Pétain. Ça paraît incroyable, mais ceci explique peut-être aussi cela. Guy Bedos était très affaibli, malade depuis quelques années et il nous manquait déjà beaucoup.
Et Guy Bedos qui a mené aussi une carrière très riche hein, au cinéma, notamment sous la direction de son réalisateur fétiche Yves Robert. Les copains, un éléphant, ça trompe énormément. Nous irons tous au paradis, le bal des casse-pieds. Merci beaucoup Diane Chénouda. Guy Bedos qui sur Europe 1 en 2015 avec Nikos Aliagas répondait à une question d'un auditeur d'Europe 1. La mort, il en riait.
Vous êtes connu pour vos revues de presse durant les spectacles. Qu'est-ce qui va disparaître d'abord ? La presse ? Ou Guy Bedos, vous êtes un peu impatient de me voir crever. Hein. J'ai 81 ans, Je suis en pleine forme, j'ai fait tous les examens pour l'assurance de ma pièce et je vous emmerde.
Voilà, ça c'est le Guy Bedos qu'on aimait. Et c'est une archive Europe 1 avec Nikos Aliagas. L'actualité, bien sûr, vous le savez, ce soir, c'est aussi la deuxième étape du déconfinement qui a été présentée, qui est encore présentée d'ailleurs par Édouard Philippe, avec de nouvelles libertés à partir de mardi prochain et une nouvelle carte de France. La région Île-de-France, Mayotte et la Guyane, qui étaient en rouge, passent en orange. Tout le reste du pays est désormais en vert. Pour tout le monde, plus de restrictions de circulation. C'est fini, les 100 km. Et puis parmi les décisions qui étaient très attendues, les restaurants situés en zone verte pourront rouvrir dès le 2 juin. Avec toutes les mesures de précaution, bien sûr. Pour les autres, ils auront le droit de servir, mais uniquement en terrasse. C'est-à-dire que ce sera le cas en région parisienne, à Paris. Dès mardi, les lycées pourront rouvrir, mais uniquement en zone verte. Alors que partout, les écoles et les collèges, eux, pourront rouvrir dans tout le pays. Il n'y aura pas d'oral, du bac, de français. Le contrôle continu sera appliqué. Voilà pour l'essentiel.
Et le point complet, évidemment, à 19h pour le journal avec vous. À tout à l'heure, Isabelle. La météo, Anissa.
Avec le retour des orages demain, alors ça concerne uniquement le sud-est de la France, effectivement. Demain matin, sur les Alpes du Sud, nous aurons des averses orageuses, tout comme sur la Côte d'Azur. Dans l'après-midi, ces orages vont s'étendre pour toucher les Cévennes, les Pyrénées, la région Rhône-Alpes. Le temps sera donc très agité également sur la Corse, avec le vent qui souffle sur les côtes varoises et la Côte d'Azur jusqu'à 70 km/h. Les températures, elles sont toujours aussi douces et toujours aussi agréables. 8 à Reims, 10 à Belfort et Montluçon, 11 à Saint-Étienne. Et Lille, 13 à Paris et Dunkerque, 15 à Marseille, 17 à Biarritz demain matin. Et puis dans l'après-midi, nous aurons 22 à 30 degrés sur l'ensemble du pays. Ailleurs, à part le sud-est, il va faire très beau.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 poursuit avec jusqu'à 19h les grandes voix pour décortiquer les annonces du Premier ministre Édouard Philippe. Autour de vous ce soir, Sébastien Krebs, Mickaël Darmon, éditorialiste politique, Emmanuel Duteil, chef du service économie de la station, et puis bien sûr notre médecin maison, Jimmy Mohamed.
Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir
à tous. Merci d'être là ce soir dans le studio d'Europe 1 pour débriefer un peu tout ce qui a été annoncé aujourd'hui. Beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses pour mardi 2 juin, deuxième phase du déconfinement. La liberté redevient la règle et l'interdiction l'exception. Ça résume un peu tout. C'est une phrase du Premier ministre aujourd'hui, avec une carte de France, donc on le disait, quasiment intégralement en vert, Jimmy Mohamed. Seulement l'Île-de-France en orange, avec Mayotte et la Guyane. Pour vous, ça correspond à la réalité. On peut y aller, on peut se permettre de libérer un peu plus les choses là.
Tout le monde, on se le disait entre nous, mais personne n'osait le dire plutôt haut et fort. Effectivement, en médecine de ville, ça va faire un mois que j'ai pas vu de coronavirus et même les suspicions sont revenues négatives. En médecine hospitalière, c'est exactement la même chose. Même dans les zones où le virus circulait beaucoup et où là où le confinement n'était pas forcément respecté, mais pour diverses raisons. Donc là, on peut se dire qu'on peut souffler, mais néanmoins attention, notamment à aller aux espaces clos avec des contacts rapprochés, là où il y a de la foule. Et le parfait exemple, c'est le Japon, qui n'a fait ni confinement massif, ni test massif, mais ils ont très vite compris que les lieux critiques où l'épidémie pouvait partir, c'était les bars, les restaurants, les salles de sport, les chorales, les lieux de culte. Donc effectivement, on est en zone verte quasiment dans toute la France, mais ça ne veut pas dire que le virus n'existe plus, il circule, mais l'épidémie est contrôlée. Donc il faut néanmoins, si vous avez des symptômes, consulter, faire des tests, parce que l'épidémie peut repartir si tout d'un coup on se met tous à faire n'importe quoi. Malheureusement, ça peut revenir, même si là, on peut être plutôt tranquille et soufflé. Surtout quand on a parlé de la barrière des 100 km. Rappelez-vous, juste avant le confinement, on avait beaucoup critiqué ces Parisiens qui étaient partis dans les campagnes se confiner un peu au vert. Et bien finalement, ça n'a pas entraîné de seconde vague ou de surinfection, de surmortalité dans d'autres zones. Donc cette liberté de circulation, à mon sens, elle est nécessaire. Elle va faire du bien à beaucoup de monde.
Et dès mardi, donc, plus de limites pour se déplacer, en tout cas en France, hein, puisque les frontières, elles, restent fermées. Les lycées, donc, ouverts en zone verte. Les collèges, toutes les écoles et tous les collèges vont pouvoir ouvrir à partir de mardi prochain. Les restaurants, les cafés, c'était très attendu partout en France, y compris à Paris. Mais à Paris, ce sera uniquement en Île-de-France, ce sera uniquement les terrasses dans ces zones oranges. Mickaël Darmon, on a entendu un Premier ministre très optimiste. Malgré tout, on avait l'habitude de l'entendre très ferme sur les consignes. Il y a eu un changement de ton quand même aujourd'hui.
Il y a eu un changement de ton, effectivement. Il était, je pense, lui-même tout heureux de pouvoir enfin prononcer des paroles plus optimistes et d'avoir des propos liminaires qui étaient, on va dire, plus ouverts et avec des perspectives plus positives. Il a décliné, effectivement, l'ensemble des acteurs de la société, en premier lieu les personnels soignants qui ont combattu et qui ont fait en sorte que ce résultat même un peu plus que positif, qui correspond au-delà même des attentes, soit donc mentionné. Et puis il a eu cette petite expression qui m'a fait un petit peu sursauter en l'écoutant, parce que j'ai trouvé ça intéressant. Je pense que c'est la première fois qu'il forge quelque chose de ce point de vue-là. Il a parlé de la rigueur tranquille avec laquelle le déconfinement avait été opéré. Et la rigueur tranquille, le mot tranquille, toujours adossé à un autre mot, inévitablement fait penser au slogan de François Mitterrand sur la force tranquille. Et on ne peut pas ne pas y déceler une petite estampille de sa part.
Et dans Philippe, un peu de culture politique, il ne l'a pas fait par hasard. C'est ça
on
que
va
vous
dire que sur le, on va dire cette petite carte postale, comme ça glissée entre les lignes sur le thème « C'est ma signature ». Pour ceux qui peut-être auraient été un peu plus fébriles ou un peu plus impatients, eh bien, la rigueur tranquille est celle qui, pour Édouard Philippe, a finalement triomphé.
Qu'il a mené, et peut-être une réponse aussi à ceux qui pointaient des divergences potentielles avec Emmanuel Macron au moment de définir la stratégie de déconfinement. Un discours qui a été porté aussi beaucoup sur l'économie, le nouveau front du gouvernement. On y vient avec Emmanuel Dutheil dans quelques secondes sur Europe 1. À tout de suite.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe avec Sébastien Krebs, entouré des grandes voix jusqu'à 19h.
On parlait de l'optimisme d'Edouard Philippe tout à l'heure à l'annonce de ces nouvelles mesures, de cette phase 2 du déconfinement qui va commencer mardi prochain. Optimiste sur le plan sanitaire, les résultats sont bons sur le plan sanitaire, a dit le Premier ministre, parce qu'évidemment les chiffres de l'économie sont catastrophiques. On a vu le chiffre du chômage en hausse de 22% qui est apparu aujourd'hui. C'est le nouveau front, Emmanuel Dutheil a dit Edouard Philippe tout à l'heure.
Oui, je vais vous lire ce qu'a dit Edouard Philippe. Un choc éco massif, je l'ai déjà dit dès le début et tout le monde le savait. Il est vrai que j'ai toujours évoqué la question du chemin de crête entre sécurité sanitaire et la reprise économique. La pente du côté de la reprise économique est aujourd'hui beaucoup plus abrupte que la sécurité sanitaire. On sent, le Premier ministre a appelé les gens à retourner au travail et on sent que c'est un peu, je ne sais pas comment les autres l'ont perçu, mais du bout des lèvres qu'il a dit qu'il faut continuer à télétravailler. On sent bien que là...
Il n'a pas beaucoup insisté dessus.
Non, il n'a pas beaucoup insisté dessus et on sent qu'il y a une volonté que ça reparte parce que effectivement, les indicateurs économiques, il n'y a pas d'autre mot, sont catastrophique. Vous citiez le chiffre du chômage dont on a parlé
et pire
dans le journal
de 18h. Pire que ce qui était attendu.
Prévu. Parce que la dernière fois, on avait eu des indications, c'était déjà très dur, puisqu'on parlait d'une récession de 8% pour cette année 2020. Quasi certitude que ce sera pire que cela. La reprise met du temps à venir, les gens mettent du temps à reconsommer normalement. Donc effectivement, on sent qu'il y a vraiment une grosse inquiétude de la part de l'exécutif en ce moment.
Et le chômage en hausse de 22% avec 12 millions de salariés en chômage partiel. Oui. Est-ce que ça veut dire que c'est que le début ?
Alors, c'est effectivement que le début. Ce chiffre est un petit peu compliqué à expliquer pour ceux qui ne connaissent pas trop, et c'est la plupart des gens, le mécanisme du chômage. C'est-à-dire que le chômage est calculé en trois catégories, A, B, C. Je vais faire très simple, rassurez-vous. A, c'est quand on n'a pas du tout travaillé. B, un tout petit peu. Et puis C, un tout petit peu plus. Là, ce qui se passe, c'est que les gens qui avaient l'habitude de travailler un tout petit peu pendant le mois n'ont pas eu de travail à cause de la crise. Donc, c'est eux qui viennent principalement grossir le chiffre du chômage. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est quand on regarde l'énorme progression du chômage des jeunes. Et je pense que dans les échanges que Mickaël doit avoir avec les responsables politiques, je peux vous dire qu'ils sont catastrophés. Alors désolé, je vais changer de mot que catastrophique et catastrophé, mais ils sont très angoissés, c'est vrai que c'est beaucoup mieux, très angoissés par ce chômage des jeunes. Pourquoi ? Parce que on parle beaucoup de la génération Covid en ce moment, et c'est une réalité. Et à tous les niveaux, vous cherchez une alternance pour finir même des études supérieures, vous n'en trouvez pas. Vous cherchez un apprentissage, vous n'en trouvez pas. Vous étiez en train d'entrer sur le marché du travail, tout le monde gèle les embauches en ce moment. Ça ne veut pas dire que ça va durer des années, ou des mois même, mais pour le moment, il n'y a rien. Et là, je peux vous dire que quand vous parlez notamment avec les équipes de Bruno Le Maire, ils sont en train de travailler à des dispositifs pour inciter les entreprises à embaucher ces jeunes pour qu'ils ne soient pas sacrifiés sur l'autel du Covid.
Et là, tous les CDD se sont arrêtés, les contrats courts, les intérimaires, etc. C'est ce qu'on voit dans ces chiffres-là.
Oui, c'est exactement
ça qu'on
voit dans
les chiffres. Licenciements.
Non, alors, il y a quand même un quart de la hausse qui est due à de nouveaux inscrits. Donc, ces nouveaux inscrits, c'est sûrement, comme vous dites, Sébastien, des fins de CDD, les nouveaux entrants sur le marché du travail qui ne trouvent pas, et sûrement le tout début peut-être de premier plan de licenciement, mais on voit bien que pour le moment on est dans le domaine des annonces. Demain on va avoir, alors ce ne seront ni des suppressions de postes, ni des licenciements, mais ce seront sûrement des non-renouvellements de postes pour des départs à la retraite, mais demain ça va se calculer en milliers également chez Renault. D'ici quelques jours on va également avoir des milliers, là encore ce sera sûrement un plan de départ volontaire, mais chez Air France. Et je ne vous cite que les entreprises les plus connues. Donc il va y avoir des restructurations massives et effectivement, on est au début. Tout va dépendre de notre capacité à reconsommer, à redémarrer. Ça va tout changer, déjà avec les restaurants par exemple qui vont rouvrir. C'est un pan gigantesque de notre économie. Et la saison touristique va être déterminante. Hein. Le tourisme, c'est plus de 7% de ce qu'on appelle notre PIB, donc de toute la richesse.
Et on comprend que parmi les annonces, tout rouvre en fait. Hein, globalement, quasiment tout revient à la normale au mois de juin, y compris progressivement les salles de spectacle et les cinémas en juin.
Notamment en Ile-de-France. Alors c'est pas vrai pour ceux qui sont hors de l'Ile-de-France, mais quand vous êtes en Ile-de-France et notamment à Paris et que vous connaissez la largeur des trottoirs, bah, bon courage à celui qui va être capable de gagner sa vie en ouvrant uniquement sa terrasse. Et en plus, je souhaite, et j'allais presque dire je prie, pour qu'il fasse beau. Parce que si vous rouvrez des terrasses sans qu'il fasse beau, en ce moment, on ne s'en rend pas compte. On a l'impression que c'est l'été depuis 3 mois. Mais il y a bien un moment où cet été risque aussi de s'arrêter.
Et d'ailleurs, cette réouverture des cafés-restaurants a suscité des débats, y compris au sein du Conseil de défense ce matin, Michel Darmon.
Le Conseil de défense, c'est le conclave le plus secret, le plus grave de la République. C'est là où se décident les opérations vraiment spéciales. C'est là où on fait toute la stratégie liée à la sécurité de l'État. Bah, figurez-vous cet après-midi, ou ce matin plutôt, quand il a eu lieu. Et bien, il y a des échanges assez intéressants entre le ministre de l'Intérieur et ses collègues, notamment à propos des cafés. Il y a une discussion pour savoir si à l'intérieur des bars, on devait être debout ou assis. Et à un moment donné, même d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a dit à ses collègues, ou en tout cas, ne comptez pas sur moi, et c'est très certainement aux plus hautes autorités de l'État, ne comptez pas sur moi pour envoyer des policiers pour aller vérifier à l'intérieur des bars si les gens sont debout,
ou assis.
C'est dire si cette situation a amené aussi, au fond, à des débats assez baroques à l'intérieur des réunions et des conclaves les plus solennelles de l'État et de la République.
Donc les policiers n'iront pas forcément vérifier, mais en tout cas la consigne a été donnée par Édouard Philippe tout à l'heure. Les bars seront ouverts, mais on n'aura pas le droit de boire un verre debout au comptoir. Ni un café, ni rien d'autre. Oui. On sera assis aux tables et une table un mètre sur un mètre, etc.
Enfin, bon, Sébastien, vous n'êtes pas le dernier à aller dans un bar. Vous savez très bien comment ça va se passer.
C'est ce qu'on comprend quand on écoute Michel Darmon, donc ça va être compliqué de le contrôler, mais la consigne, effectivement...
La consigne des 10 restait la norme. C'est une consigne, hein. Ce n'est pas une contrainte législative, mais c'est une préconisation de rester à moins de 10 en société pour faire en sorte que le virus circule le moins possible.
On comprend l'impact économique. Est-ce qu'on a pris trop de précautions? Est-ce qu'on continue d'en prendre trop? Tiens, on va se poser la question dans un instant. À tout de suite.
Votre grand journal du soir sur Europe avec Sébastien Krebs, entouré des grandes voix jusqu'à 19h.
Ça va mieux, la carte de France est verte, la France va continuer de se déconfiner la semaine prochaine avec la réouverture des cafés-restaurants, on en parlait, avec la réouverture de toutes les écoles, de tous les collèges partout en France et des lycées, sauf dans la zone qui reste orange, c'est-à-dire l'Île-de-France, la Guyane et Mayotte. On a pris, Jimmy Mohamed, beaucoup de précautions depuis le 16 mars, on a maintenu encore beaucoup de précautions jusqu'à maintenant. Est-ce que maintenant on se pose la question, est-ce qu'on en a trop fait ?
Alors c'est vrai que c'est plus facile pour moi de commenter que de prendre des décisions, et de gouverner c'est difficile. Donc c'est plus simple de critiquer a posteriori une fois que c'est bien passé. Mais imaginez un scénario contraire, on déconfine plus facilement et plus largement et catastrophe, l'épidémie repart, on aurait été les premiers à les critiquer. Maintenant on peut aussi se poser des questions, on a dit tout et son contraire, donc on peut comprendre que la prudence est de rigueur. On avait dit initialement que c'était une grippe qui allait tuer les personnes âgées, on avait quasiment accepté que des personnes âgées allaient mourir, et bien on s'est rendu compte que ça tuait aussi des jeunes. On a dit qu'il ne fallait pas de masque et puis finalement il en fallait. Même chose pour les enfants, on se rend compte que certains font des Kawasaki. On peut ouvrir les écoles, mais c'est une école quasi militaire, avec des règles qu'on ne comprend strictement pas. Et donc on peut comprendre qu'on soit un peu vigilant, même si de façon factuelle, les services de réanimation ne sont plus sous tension, même s'il y a des cas, il y a une occupation, les services d'urgence sont quasiment libres en termes de Covid. Et donc au bout d'un moment, on se pose des questions, mais il y a plein de réponses qu'on n'a pas encore. Pourquoi est-ce que cette épidémie a touché plus l'Île-de-France et le Grand Est et pas la Nouvelle-Aquitaine ou la Bretagne? Pourquoi est-ce que la Grèce a été épargnée et pas l'Italie? Il y a plein d'interrogations. À mon avis, on aura peut-être des réponses d'ici quelques temps, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que le confinement a sauvé des vies, mais il était temps que ça s'arrête. J'ai le souvenir d'une personne âgée de 80 ans, autonome, qui allait voir son mari, qui a aussi 80 ans, qui est dans un EHPAD. Il a fait un double AVC et tous les jours, elle allait lui rendre visite. Elle faisait 10 km par jour en parfait état général et avec le confinement, elle ne sortait plus de chez elle. Et comme elle ne sort plus de chez elle, ben elle mange moins, elle est déprimée et donc elle marche moins et elle s'est déconditionnée du fait du confinement. Et donc pour eux, il était urgent de repartir enfin, il était urgent de repartir vers le chemin de l'école. Et j'ai, en 30 secondes, un ami psychologue qui travaille dans un centre pour enfants, il m'explique qu'il y a un enfant qu'il suit de 9 ans, qu'il appelle tous les jours. Elle était en pleurs tous les jours puisqu'en fait sa mère, pendant le confinement, lui a posé les mêmes règles que lors de l'école, c'est-à-dire pas de télé à la maison, pas de jeux vidéo, sauf qu'elle n'avait aucune interaction sociale. Et cette gamine, elle est diabétique et comme elle est stressée, elle mange du sucre et elle a pris du poids. Et elle est triste parce que sa mère ne lui proposait rien à la maison. Donc il était urgent pour eux de reprendre le chemin de l'école, sauf que c'est une école partielle. Donc il va falloir qu'on reprenne un peu de vie, qu'on contrôle l'épidémie et peut-être qu'on arrête non pas ces psychoses, mais c'est vrai qu'encore une fois, c'est facile de donner des leçons. Les choses évoluent de façon positive,
et puis
ça au jour le jour.
Effectivement, et on tenait pas le même discours au mois de mars, au moment du rush. Vous parliez des personnes âgées, les familles vont pouvoir se retrouver aussi avec cette limite de 100 km qui saute. Juste une question rapide, qu'est-ce que vous dites aux familles qui pourraient être inquiètes d'aller d'emmener les petits enfants chez les personnes âgées, par exemple? Ça y est, maintenant on peut le faire, on arrête de se stresser.
On considère les enfants comme des bombes à retardement. On se demande est-ce qu'elles vont pas contaminer papy ou mamie. Moi, j'ai envie de vous dire que peut-être malheureusement les grands-parents tomberont malades, mais ce sera pas la faute des enfants. Donc, faut qu'on arrête de porter aux enfants cette responsabilité. On a fermé les écoles précocement en pensant que l'épidémie partait de là. Ben, on s'est rendu compte que c'est pas forcément le cas. Donc les enfants sont peu porteurs de la maladie, peu vecteurs de la maladie. Donc je pense qu'à l'heure actuelle, il est possible de retrouver du lien social, d'aller voir les personnes âgées, peut-être en étant prudent. Si autour de vous, vous avez des cas, évidemment, il faut éviter de voir les personnes fragiles et malades. Mais pour l'instant, peut-être qu'on va pouvoir enfin voir les grands-parents. Je pense que c'est possible. Alors personne ne vous dira oui, allez-y. Mais je pense quand même que pour cet été, on a respecté le confinement, le virus circule peu ou pas, on peut peut-être relâcher certaines mesures et enfin vivre des choses. Et pour certains, peut-être, c'est triste ce que je vous dis, mais peut-être que pour certains grands-parents, c'est le dernier été qu'ils verront leurs enfants, leurs petits-enfants. Donc est-ce qu'on peut ne pas se relâcher mais revivre un peu normalement? Je pense que c'est possible.
Allez, on va revivre et ça donne un peu des perspectives et des bonnes nouvelles ce soir. Emmanuel Duteil, on a toute la politique a été faite depuis le mois de mars, c'était la santé avant tout. Là aujourd'hui, maintenant, ça va être l'économie avant tout. Est-ce qu'on n'a pas poussé le curseur trop loin quand on voit les résultats?
Ça, c'est trop compliqué d'y répondre parce qu'on ne saura jamais, je pense, si on n'avait pas confiné, qu'est-ce qui se serait réellement passé. Et donc, à partir du moment où on a pris la décision de confiner, il n'y avait pas d'autre solution que de soutenir l'économie comme ce qu'a fait le gouvernement. Là, aujourd'hui, la grosse inquiétude, je vous parlais tout à l'heure du chômage des jeunes, l'autre grosse inquiétude, c'est comment on fait pour enlever la soupape sociale qui a été mise en place pendant ce confinement, notamment le chômage partiel. Vous citiez tout à l'heure le chiffre de plus de 12 millions de personnes qui sont au chômage partiel. Alors, en réalité, il y en a un petit peu moins, parce que les entreprises déposent plus de demandes qu'est-ce qu'elles valident, mais on a quand même 9 millions de collaborateurs en ce moment au chômage partiel. Là, à compter de lundi prochain, du 1er juin, les entreprises vont devoir payer un peu du chômage partiel, et beaucoup quand même pour certaines, hein, c'est 15% de reste à charge pour les entreprises. C'est là maintenant, effectivement, que le plus dur commence, et j'ai presque envie de dire que quelle que soit la réalité de l'intérêt du confinement, c'est trop tard. Il a été fait et maintenant, il faut se mettre effectivement en opération commando de la même façon que l'opération commando a été menée pour lutter contre le Covid. Ça veut dire quoi l'opération commando? Ça veut dire acheter français, ça veut dire soutenir toutes nos entreprises qui peuvent s'effondrer, ça veut dire se remettre au travail, mais ça... Il n'y a pas de Français qui ne se sont pas mis au travail. C'est, tout le monde le voit dans ces entreprises. Quand on a pu travailler, il y a un attachement, en plus, la plupart du temps, des collaborateurs aux entreprises. Mais c'est vrai que là, il faut être honnête. On entre dans le pire moment et on voit que la France... Mais de toute façon, et en plus, c'est toujours comme ça. Mais non, on voit que la France a été plus touchée que les autres. Notre croissance a plus vite baissé que les autres. Et on sait que généralement, notre capacité de rebond est moins rapide que celle des autres. Donc là, il va falloir qu'on se batte dans le concert mondial pour essayer de s'en sortir. Mais après, on va s'en sortir.
Dernier mot, Michael Darmon, c'est justement tout l'enjeu de ce qui se prépare au sein de l'exécutif, le plan de relance en construction et toute l'acte l'acte combien, l'acte 3 du quinquennat qui va démarrer maintenant pour l'après-crise sanitaire.
Oui, ce que l'on dit aussi autour du président de la République, c'est qu'à partir du lendemain de l'élection de municipale, hein, du 28 juin, qui manifestement maintenant se tiendra dans ces conditions le 28 juin, eh bien, on entre dans l'inconnu. C'est-à-dire que jusqu'aux abords de la fête nationale, il peut effectivement y avoir des annonces importantes de la part du président de la République, éventuellement une réorganisation gouvernementale, on verra son ampleur. Ce qui est vrai, et c'est ce qui déterminera aussi le plan de relance et la situation aujourd'hui économique, c'est que ce virus, on le voit, a agi comme une sorte de grand benchmark à l'échelle planétaire. Le même problème posé à tous les pays, on a vu comment chaque société a réagi avec ses codes, ses gouvernances, ses freins, ces blocages, et on a compris qu'en France il y avait un gros problème avec l'État.
Et avec des données d'épidémie qui étaient aussi différentes selon les pays, ce que nous disait le docteur Jimmy Mohamed. Merci à tous les trois, docteur Jimmy Mohamed. 15h, bien sûr, sans rendez-vous demain, l'émission Santé d'Europe 1, et vous revenez bien sûr dans le journal de 18h. Mickaël Darmon, éditorialiste politique, et Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1. Bonne soirée à tous les trois.
Europe 1. Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1. Avec vous, Sébastien Krebs.
Avec le journal d'Isabelle Millet à 19h dans quelques secondes. À tout de suite.
Europe 1.